Brassage sur RCN, Hélène Ingret.
Bonjour auditrices et auditeurs de Brassage. Alors ce brassage qui sera diffusé les deux derniers jeudis du mois de novembre, l'intitulé sera Anthony Smith, inspecteur du travail à Malzville le 5 décembre 2023. Et oui, Anthony Smith, eh bien, nous l'aurons en interview par téléphone. Il nous expliquera pourquoi il a été sanctionné, sanction qui a été levée d'ailleurs au fil d'un long combat de 2 ans dont il a fait un livre, livre qu'il viendra donc présenter à Malzéville, à l'ancienne salle des fêtes, donc la salle Michel Dinet, qui se trouve place François Mitterrand, à côté de la rue de Géricault, et à côté du pont venant de Nancy par le secteur du faubourg des Trois Maisons. Le 5 décembre, à partir de 18h jusqu'à 21h. Et bien entendu, nous aurons également 2 autres interventions. Je dis bien entendu, pourquoi ? Parce que cette affaire est particulièrement emblématique d'un contexte social et sanitaire, avec la présentation de cette début de soirée donc par Michel Ancé, ainsi que du comité de soutien par Jean-Marie Hirtz en fin d'émission. Et comme justement ce rendez-vous nous est proposé le 5 décembre, c'est la veille du 6 décembre, et si vous êtes auditrice et auditeur lorrain, ou si vous venez d'arriver en Lorraine, le 6 décembre, eh bien, tout le monde pense à la Saint-Nicolas. Ce sera d'ailleurs, justement, nos illustrations musicales liées à la Saint-Nicolas avec 2 artistes. D'une part, ce sera donc Kindercourt, que nous découvrirons ensemble. Et puis, eh bien, je vous proposerai une petite pépite en fin d'émission, liée également aux illustrations musicales de la Saint-Nicolas. Eh bien, tout d'abord, présentation de ce rendez-vous qui nous est proposé le 5 décembre à Malzéville à partir de 18h à la salle Michel Dinet. Bonjour Michel Ancé.
Oui, bonjour Hélène.
Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, peux-tu te présenter et surtout nous dire ce que nous propose l'Union locale CGT le 5 décembre à Malzéville?
Bien, alors, je me présente, Michel Ancé, donc je fais partie du secrétariat de la CGT à Nancy. Et le 5 décembre, avec le collectif revendicatif de la CGT, on vous invite à rencontrer Anthony Smith pour la sortie de son livre 918 jours, le combat d'un inspecteur du travail. Pardon. Voilà. Donc ce sera à Malzéville, à la maison Dinet, de 18h à 21h. Alors Anthony, c'est un camarade de la CGT, il est représentant syndical au ministère du Travail. C'est un inspecteur du travail donc qui a refusé d'abandonner les salariés pendant la crise Covid et qui a dit non à ses hiérarchies et qui, pour le coup, parce qu'il faisait son travail, a été immuté et qui a subi les foudres du ministère du Travail version Macron. Voilà.
Alors, comme c'est le premier entretien dans le cadre de cette émission, pour nos étudiants et nos auditeurs, justement, il nous en parlera davantage, hein, Anthony Smith, ensuite. D'accord. Mais peux-tu nous dire, justement, pourquoi il a été sanctionné? Parce que c'est tellement aberrant.
Alors, il est sanctionné parce qu'il y a une association d'aide à domicile qui l'interpelle. Et ces gens, c'est pendant la crise Covid, hein, donc ces travailleurs et ces travailleuses, c'est les... les fers de lance que décrit Macron, hein, c'est voilà, les gens courageux, et ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de protection pendant la crise Covid. Et donc, lui, simplement, Anthony, il fait un courrier à l'employeur en lui disant, vous devez donner des masques aux salariés. Et comme il n'y a pas de réponse, c'est traité par le mépris, il saisit et il fait un référé, comme il en a le pouvoir, et comme le code du travail lui demande, pour forcer l'employeur à donner des masques à ses salariés. Voilà. Et la suite de ça, parce qu'il a fait ça, il reçoit un patron de sa direction, et il lui demande de laisser tranquille l'employeur. Et il refuse, il dit non, parce que la loi est pour tout le monde. D'ailleurs, on peut être puni si on n'a pas de masque, enfin c'est invraisemblable. Et comme il ne se range pas aux arguments de l'employeur, le ministère du Travail, il sera le 15 avril, il sera muté. Il va avoir des sanctions, parce que simplement il a fait son travail.
Alors le 5 décembre, quel est un peu entre guillemets le programme, notamment je pense aux personnes qui viendraient en cours, hein, qui sortent du travail ou qui ne sont pas obligatoirement disponibles à 18h. Comment vous envisagez ces 3 heures à la salle Michel Dinet, je redirais, hors entretien où ça se trouve, c'est facile à trouver.
Anthony nous dira quelques mots, il rappellera un peu le contexte. Et puis, c'est aussi un militant de la CGT, je pense qu'il s'exprimera par rapport à ce qu'on vit dans le monde du travail aujourd'hui. À la suite, il va dédicacer son livre. Bon, ça va être un moment pas trop solennel, surtout convivial. On est content d'accueillir Anthony après 918 jours de combat, d'autant plus que c'est la cour d'appel, c'est la cour administrative de Nancy qui a requalifié le fait qu'il n'était pas, qu'il ne devait pas être sanctionné. Donc Nancy, ça marque un peu une étape un peu symbolique, mais très conviviale. Voilà.
Voilà, donc de 18h à 21h, on rappelle la salle.
Salle Michel Dinet à Malzéville, c'est sur la place François Mitterrand, anciennement place du Géricault, l'ancienne salle des fêtes de Malzéville. Et voilà, on trouvera les bouquins, donc on a approvisionné avec les livres d'Anthony, c'est une édition qui coûte 13 euros, donc c'est un format poche. Donc qui raconte 918 jours de combat, et puis c'est bien que le copain signe un peu cette bagarre. Moi, je voudrais quand même rappeler que les inspecteurs du travail, souvent, sont au front et ils payent cher. Il y a quelques années, il y a une inspectrice du travail qui a demandé à Tefal de respecter les 35 heures, et le patron, elle a produit des courriers avec un lanceur d'alerte, comme quoi le patron était de connivence avec le ministère du Travail, et c'est elle qui a été condamnée avec le lanceur d'alerte, voilà. Et donc, elle s'appelle Laura Pfeiffer, cette femme courageuse, c'est une inspectrice du travail, elle a été condamnée parce qu'elle voulait faire respecter la loi. Donc le ministère du Travail va beaucoup très loin. Je rappellerai quand il y a des choses qui sont ignobles. En 2004, il y a eu une inspectrice et un inspecteur du travail, Sylvie Trémouillet et Daniel Buffière. Ouais, ils vont dans une exploitation agricole pour effectuer un contrôle, c'est leur métier, et l'exploitant agricole les a accueillis au fusil, leur a tiré dans le dos, et ils sont morts. Voilà. Et la seule réaction du gouvernement Raffarin de l'époque, c'était de mettre en place une réunion pour les exploitants agricoles avec la FNSEA pour soustraire les exploitants agricoles aux tracasseries administratives. Il y avait 2 morts, des inspecteurs du travail. Voilà. Alors aujourd'hui, le témoignage des copains de l'inspection du travail dans les syndicats, c'est de dire on arrive, on subit les colibets parce que les patrons nous disent les temps vont changer, vous allez voir, et ils n'arrivent plus à faire vraiment leur boulot, c'est-à-dire protéger les salariés. Je rappelle qu'on est dans un pays, on est 8 parades en France, 804 morts par an, c'est 7 morts tous les 2 jours. 7 morts tous les 2 jours, et on retire des moyens à l'inspection du travail. C'est le en même temps de Macron. Hein. J'enlève des moyens à l'inspection du travail, mais je donne 200 milliards au patron. Et voilà, je trouve que c'est un métier où les gens ont beaucoup de courage, Et malgré tout, ils nous défendent au travail. Hein. Alors ça fait qu'il y a à peu près un inspecteur pour 10 000 salariés et 700 entreprises. Hein. Ça donne la tâche qu'ils ont à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on veut fièrement accueillir Anthony, parce que c'est un métier dont on a besoin. Et que je trouve que ces gens ont beaucoup de courage. Voilà.
Eh bien, c'est une initiative que nous avons le plaisir de relayer pour l'ensemble de nos auditeurs. Eh bien, merci Michel Ancet de l'Union Locale CGT et donc au 5 décembre à Malzéville. À bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Et vous avez reconnu justement Grand Nicolas, donc c'était le Kinderchor. Et oui, car la veille de la Saint-Nicolas, donc la Saint-Nicolas le 6 décembre, partout, à travers le monde, et notamment à travers le Grand Est, et bon, les pays nordiques, eh bien, la veille, le 5 décembre, à Malzéville, nous avons donc ce rendez-vous à partir de 18h pour la présentation du livre écrit par Anthony Smith, notamment, donc inspecteur du travail, qui relate ses 2 ans de combat et avec lequel nous allons pouvoir à présent nous entretenir. Allô ?
Allô, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur Anthony Smith, pour nos auditrices et nos auditeurs. Pouvez-vous vous présenter et surtout nous donner ensuite les raisons de votre présence bientôt sur le secteur de Nancy à Malzéville le 5 décembre?
Bien, bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Moi, je suis Anthony Smith, je suis inspecteur du travail, syndicaliste au ministère du Travail. Et donc c'est un métier qu'on est très peu nombreux à exercer d'ailleurs, et je viendrai le 5 décembre effectivement par chez vous au soir à partir de 18h pour parler d'un livre que je sors et qui raconte 918 jours d'une bataille que j'ai dû mener entre 2020 et 2022 dans le cadre de l'exercice de mes fonctions d'inspecteur du travail, où j'ai été suspendu pour avoir tenté d'exercer mon métier d'inspecteur durant la première phase de Covid. J'étais alors affecté à Reims et j'étais intervenu auprès d'une association d'aide à domicile pour que les salariés, beaucoup de femmes de cette structure, puissent bénéficier de protection, d'une organisation du travail qui les protège plus efficacement. Je me suis heurté à des résistances de la part de l'employeur et j'ai voulu saisir un juge indépendant. Jusque-là, en fait, je ne faisais que mon métier d'inspecteur du travail, mais il s'est trouvé que l'État en a décidé autrement et m'a suspendu de mes fonctions, puis m'a sanctionné d'une mutation d'office. J'ai passé 2 ans pas très loin de la Meurthe-et-Moselle dans la Meuse et j'ai finalement été réhabilité le 20 octobre 2022 par le juge du tribunal administratif de Nancy et j'ai repris mes fonctions en janvier 2023. Derrière cette affaire, en fait, que je raconte dans ce livre, ces 918 jours, c'est celle d'une attaque, hein, contre le droit du travail, contre un inspecteur du travail, mais plus largement contre le code du travail et les droits des salariés de ce pays qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir être protégés au quotidien dans leurs conditions de travail, de santé, de sécurité, parce que c'est évidemment essentiel. Alors c'est tout ça que je raconte, parce qu'autour de cette histoire, il y a eu une bataille collective qui s'est menée en France, nationalement, à Nancy aussi, avec un comité de soutien qui a agi pour faire parler de cette affaire, qui a permis de la médiatiser. Ici à Nancy, c'est mon camarade Jean-Marie Hirtz qui était à la tête de ce comité et qui a lancé une pétition sur les réseaux et sur Internet, qui a réuni plus de 150 000 personnes. Et puis à côté de ce comité de soutien, il y a eu un soutien énorme, immense, d'abord de mon syndicat, la CGT, et ici de l'Union locale, de l'Union départementale de Nancy et de Meurthe-et-Moselle, et puis plus largement d'une intersyndicale du ministère du Travail qui m'a soutenu tout du long dans une mobilisation donc qui a été assez atypique, hein, où, souvenez-vous, on sortait du confinement, on était mobilisés dans des règles extrêmement strictes. Et tout ça, toute cette mobilisation sociale, syndicale, citoyenne, elle a participé à me réhabiliter, même au-delà de nos frontières. Hein, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est accréditée par l'ONU, s'est exprimée sur mon affaire. La CES, la Confédération européenne des syndicats, a pris position pour me soutenir également. Et c'est cette mobilisation nationale, internationale, qui a permis de mettre en échec ce que la ministre Muriel Pénicaud avait engagé à mon encontre et qui avait été poursuivi par la première ministre, celle qui deviendra après première ministre, Elisabeth Borne. Et donc c'est ces 918 jours que j'essaye de raconter, d'une bataille, d'une résistance évidemment qui m'a dépassé dès le premier jour où j'ai été suspendu, puisque cette bataille collective, elle me dépasse et tant mieux, elle veut dire beaucoup plus qu'une résistance individuelle, même si évidemment j'ai lutté, mais j'ai lutté parce que je n'étais pas seul, parce qu'à côté de moi, avec moi, devant moi et derrière moi, il y avait des militants, des citoyens, des syndicalistes, des personnes engagées qui se sont dit que non, décidément, après les ordonnances Macron, après les lois El Khomri, on ne peut pas s'en prendre à un inspecteur du travail qui ne fait qu'une seule chose, tenter d'appliquer la réglementation du travail. Et c'est ce que dira le juge de Nancy le 20 octobre 2022 en annulant totalement la sanction disciplinaire que j'avais subie. Il redira que les inspecteurs du travail doivent évidemment obéir aux règles, mais ne peuvent faire l'objet de sanctions s'ils appliquent les prérogatives dont ils sont titulaires du fait ici d'une convention internationale, d'un texte auquel nous, les inspecteurs et les inspectrices du travail, on tient beaucoup, qui est la convention 81 de l'Organisation internationale du travail. Vous savez, cette organisation internationale qui existe depuis l'après Première Guerre mondiale, qui vise à construire le progrès social au niveau international et qui donne aux inspecteurs du travail des garanties pour pouvoir veiller à l'application de la réglementation du travail dans l'ensemble quasiment des pays du monde, avec, vous vous en doutez, des droits du travail qui sont extrêmement différents d'un pays à l'autre, hein, avec encore des endroits où le travail est quasiment équivalent à une situation d'esclavage pour beaucoup de travailleurs. Et en France, on avait une réglementation du travail qui s'est construite progressivement tout au long du XXe siècle en étant protectrice de la partie faible du contrat, le salarié, pour essayer de contrebalancer le pouvoir patronal à l'intérieur des entreprises. Et force est de constater que la dernière décennie, les deux dernières décennies qui se sont écoulées, ont été une succession de remises en cause des droits des salariés dans l'entreprise. Une succession de casses, d'attaques, de destructions qui se sont traduites notamment à travers les ordonnances Macron de 2017 qui ont supprimé les comités d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail dans toutes les entreprises de 50 à 300 salariés, qui ont attaqué l'indemnisation des licenciements abusifs à travers ce qu'on a appelé la barémisation des indemnités prud'homales et qui était en fait un prix à payer par l'employeur pour pouvoir licencier abusivement à travers toute une série d'autres mesures comme les accords de performance collective qui sont des accords qui permettent de payer moins et de travailler plus pour les salariés dans certains secteurs d'activité. Donc c'est tout cela que je raconte aussi dans le livre, et puis d'une façon plus positive, c'est comment se réapproprier ces sujets-là.
Justement, avant de pouvoir parler peut-être des perspectives, c'est important de rappeler le contexte médical, enfin de santé publique, qui a existé au moment de votre sanction. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ça concernait qui? Qu'est-ce que vous demandiez? Je dirais simplement.
Bien sûr. On a du mal quasiment à se remettre à l'époque. Hein. On est confiné. La porte-parole du gouvernement explique à la télé, dans les radios, qu'il n'y a nul besoin de se protéger face à la première vague de Covid. Et lorsque l'activité s'arrête, les salariés d'une association d'aide à domicile me saisissent en disant « Mais monsieur l'inspecteur, qu'allons-nous faire ? Le matin, nous allons chez une première personne pour apporter des soins. Le midi, chez une seconde. Le soir, chez une troisième. Nous sommes des vecteurs de nous véhiculons potentiellement le virus et en plus nous ne sommes pas protégés. Et c'est vrai que toutes ces travailleuses, les essentielles, les premières de cordée, toutes celles qui ont été invisibilisées durant Covid, sont passées à côté de toute protection. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'interviens en tant qu'inspecteur pour tenter de leur donner des garanties d'organisation ou de protection, des charlottes, des masques, différents équipements, du gel, et en saisissant un juge indépendant à travers un outil juridique qui s'appelle le référé, qui permet de demander au juge de voir ordonner des mesures de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Oui, parce qu'en fait, il faut bien se souvenir qu'à cette époque, hein, il n'y a pas longtemps, mais effectivement, des fois, on est rapidement amnésique, les personnes, tout le monde était confiné chez soi et ne travaillait en extérieur, surtout les vendeurs, bien sûr, les éboueurs, mais surtout les vendeurs surtout, et puis ces personnes qui intervenaient au domicile, notamment des personnes âgées ou des malades, puisque les autres devaient, si c'était gravissime, aller à l'hôpital, et sinon tout le monde était bloqué et personne ne rendait visite à ces malades ou à ces vieux, sauf ces auxiliaires de vie.
Exactement. C'est pour ça aussi qu'elles sont tellement essentielles dans des métiers du care, des métiers qui devraient être...
Donc du soin, je traduis toujours tout ce qui est anglais.
Tout à fait, pardon. Des métiers du soin, des métiers de l'autre, des métiers de l'humain, des métiers qui devraient tellement être valorisés aujourd'hui dans notre pays et qui peinent tellement à recruter, alors que il y aurait des gens qui aiment ces métiers-là et qui peuvent se diriger, mais le niveau de rémunération sont tellement faibles, alors que à côté, toute une série d'emplois, moi j'ai rien contre les banquiers, mais qui sont extrêmement mieux payés, alors que leur gain social, leur gain d'humanité est beaucoup plus faible. Et ces métiers-là, en plus, sont des métiers précaires, souvent, avec des coupures dans la journée, avec des difficultés pour se véhiculer, avec des risques de troubles musculo-squelettiques extrêmement importants, puisque porter une personne, la déplacer, l'aider, c'est évidemment des actes qui peuvent endommager le corps et qui sont réalisés dans des conditions de sous-effectifs, donc dans des conditions qui abîment encore plus celles et ceux qui le réalisent, mais surtout celles, parce que c'est un métier extrêmement féminisé. Et donc oui, tout ça, c'est ce qui devrait être valorisé, c'est à la inverse, ces personnels-là qu'on a massivement exposés durant Covid, avec, moi je me souviens, des gens qui étaient, des salariés qui étaient hospitalisés, des patients qui mouraient, et un niveau de protection qui était complètement défaillant. Et lorsque j'ai voulu intervenir à ce moment-là pour pouvoir protéger ces salariés, eh bien j'ai été suspendu parce que l'État a considéré qu'à ce moment-là, il ne fallait pas qu'un inspecteur du travail intervienne sur ces sujets-là avec cet outil juridique-là. Et il faudra 918 jours, c'est le titre de mon livre, pour que enfin le juge dise que non, j'avais le droit et au contraire le devoir d'intervenir pour tenter de réaliser mes missions. Donc oui, c'est bien ça, hein, ce qui s'est joué à ce moment-là. Et c'est vrai, vous avez raison. Il faudra attendre septembre 2022 pour qu'Olivier Véran, dans son livre, écrive sur les masques, nous nous sommes trompés. hein, parce que la doctrine de l'État durant toute cette période a été alternative à la réalité, alors que quelques mois plus tard, en septembre 2020, lorsque...
Je retraduis aussi l'alternative à la réalité, on va dire, ouais, des mensonges. Hein. Je le fais court.
Je vous laisse le mot.
Voilà. Mais alors justement, je vous avais interrompu quand vous parliez d'une part des perspectives plus optimistes, vous allez nous en parler, et puis également de votre fonction, parce que c'est quelque chose qui est méconnu, au niveau justement du ministère du Travail actuellement, puisque vous venez, ça c'est un article qu'on peut retrouver sur Internet, d'une revue de ressources humaines. Vous êtes reconduite dans un mandat donc au niveau du ministère. Est-ce que vous pourrez aussi nous en parler ?
Oui, bien sûr. L'inspection du travail, vous savez, c'est une très vieille institution. Elle existe depuis 1892, avant même le ministère du Travail, qui lui ne fut créé qu'en 1906. C'est l'inspection du travail, elle est intimement liée à la question sociale, puisqu'elle est créée dans les premières lois sociale qui organise le travail dans le secteur de l'industrie. Et le corps des inspecteurs et des inspectrices, d'abord les inspecteurs avant qu'ils soient à l'inverse extrêmement féminisés aujourd'hui, c'est un corps qui a pour fonction de veiller à l'application de la loi, du droit, parce qu'on n'est pas égal au travail, parce que pendant 7 heures, 8 heures par jour au travail, celui qui dirige, celui qui donne les ordres, c'est l'employeur. Cette situation qui est inégale, inégalitaire profondément, eh bien, elle suppose d'être corrigée par des lois protectrices. Et c'est pour ça que les inspecteurs ont été créés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il reste en France moins de 1700 inspecteurs du travail sur le terrain pour plus de 20 millions de salariés et près de 2 millions d'entreprises. On était 2200 il y a 10 ans, ce qui était déjà tellement insuffisant. Nous, à la CGT du ministère du Travail, on estime qu'on devrait être 5000 pour commencer à retrouver le geste professionnel sur le terrain réellement. Mais au moment même où on se parle, on a près de 450 secteurs de contrôle. On est organisé géographiquement, hein, sur des secteurs de contrôle partout sur le territoire. Eh bien, on a 450 de ces secteurs, 20% de ces secteurs en France, qui sont vides de tout inspecteur du travail titulaire, qui sont des zones de non-droit du travail. Donc ça, c'est la réalité de l'inspection du travail aujourd'hui en France. On a abîmé, cassé un corps qui est tellement essentiel à la protection des salariés. Il n'est évidemment pas seul, les organisations syndicales sont fondamentales, mais on a abîmé ce corps-là. Donc ça, c'est la première réalité de l'inspection du travail. Et puis, la deuxième, c'est effectivement, vous l'avez dit, moi je siège dans un conseil qui est le Conseil national de l'inspection du travail, qui est une instance nationale qui a pour but de vérifier l'absence d'atteinte à l'indépendance des inspecteurs du travail. Parce que les inspecteurs, pour pouvoir agir, ils doivent être indépendants. Ils sont souvent soumis à des pressions patronales, des pressions de l'État, des pressions de différents services. Et le texte que je citais tout à l'heure de l'Organisation internationale du travail, il les rend indépendants, dit le texte, de toutes les influences extérieures indues. Et donc, pour ce faire, il y a une instance, le Conseil national de l'inspection du travail, qui doit veiller à cette indépendance, et c'est à l'intérieur de cette instance que je siège, et je peux vous dire qu'elle a du travail parce que les atteintes sont nombreuses, comme dans mon affaire d'ailleurs, où l'atteinte a été révélée, hein, par la presse, par vos confrères, où en fait, on a démontré l'atteinte à travers les pressions qui se sont exercées du cabinet de Muriel Pénicaud, du préfet du département, de la direction du travail, du président du conseil départemental, qui ont agi de concert, j'explique tout ça dans le livre, pour en fait m'empêcher d'exercer mon métier.
Alors parce que justement, avant de nous quitter, pour les personnes qui, naïvement, entre guillemets, on dit, vous êtes là pour faire appliquer la loi. Si la loi n'est pas appliquée, eh bien, en général, théoriquement, hein, pour n'importe quel dispositif légal, eh bien, le policier, par exemple, hein, si un policier constate, je ne sais pas, moi, que vous roulez à 200 à l'heure au lieu de 50, il fait son procès verbal et c'est transmis à la justice. Alors, on pourrait penser que c'est la même chose au niveau du monde du travail. Vous transmettez en direct à la justice. Et apparemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, je pense.
Alors, quand on relève des procédures, on les transmet à la justice, mais la plupart, malheureusement, sont classés sans suite. On a fait un travail dans différents départements pour regarder les suites qui étaient données à nos procédures. Un tiers sont classés sans suite. Aucune suite. Rien. Alors que c'est relevé, par exemple, sur des accidents du travail, des choses graves qui se sont passées. Un tiers sont encore en instruction dans les commissariats ou les gendarmeries 7 ans, 8 ans après les faits. Et un tiers seulement sont jugés, et quand elles sont jugées, ces procédures, c'est en règle générale des peines de prison avec sursis, quand il n'y a pas des relax à l'encontre des employeurs. Parce qu'en France, la question de la délinquance patronale, de pouvoir reconnaître des employeurs comme étant des délinquants, c'est extrêmement faiblement sanctionné. Parce que l'employeur, c'est celui qui crée de l'emploi, celui qui, sur un bassin, maintient l'emploi. Et malheureusement, il y a des employeurs qui ne respectent pas les règles du jeu, mais qui ne sont pas sanctionnés face à des infractions. Et ça, c'est une grande différence vis-à-vis d'autres réglementations où les sanctions sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus efficaces. En matière de droit du travail, de droit pénal du travail, c'est totalement inexistant. Et c'est aussi pour ça que la France devient de plus en plus, se retrouve aujourd'hui en pole position des accidents mortels au travail. 2 morts par jour au travail, 600 000 accidents du travail par an, et ça c'est dramatique. Alors on essaye de se battre, moi je fais beaucoup de propositions dans le livre justement pour qu'on puisse avoir une réglementation du travail qui de nouveau protège les salariés. On travaille avec les syndicats, avec les associations des victimes d'accidents qui ont commencé à s'organiser. Donc il y a des perspectives hein, pour changer les choses, mais pour ça il faut une volonté politique qui ne peut pas se résumer à la campagne de spot publicitaire qu'a lancé dans les médias le ministre du Travail, qui n'est assis sur aucune mesure, aucune nouvelle réglementation qui permettrait aux inspecteurs du travail de réellement protéger les salariés dans les entreprises, à la condition évidemment, vous l'avez compris, que leur nombre soit multiplié par 2 ou par 3 pour pouvoir le faire efficacement dans le pays.
Oui, parce que vous pouvez nous rappeler ces chiffres quand même. Donc, sur le nombre de millions de salariés, combien y a-t-il d'inspecteurs du travail ? Est-ce que, alors moi je découvre, hein, je savais que l'inspection du travail, eh bien, comme j'ai coutume de dire, si on ne veut pas voir la température, le plus simple c'est de casser le thermomètre.
Eh ben, mais
vraiment savoir qu'il y a des secteurs entiers, alors qu'on est en France, tout le monde est égal devant la loi, il y a des secteurs entiers qui ne sont pas protégés par l'inspection du travail. Ça, alors ça je découvre, j'avoue.
C'est exactement ça, c'est assez terrible. L'inspection du travail est exsangue, elle est dans une situation où en 10 ans, elle a perdu 20%, quasiment 20% de ses effectifs. On est passé de 2200 à moins de 2700. Moi, j'invite d'ailleurs toutes celles et ceux qui veulent passer le concours à le faire, à venir rejoindre les rangs des inspectrices et des inspecteurs. Il faudrait pour ça qu'il y ait massivement des postes qui soient ouverts au concours. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est qu'effectivement, ce bras gauche de l'État, vous savez, c'est vrai pour l'inspection du travail, mais aussi c'est vrai pour les inspecteurs de la répression des fraudes, c'est vrai pour les inspecteurs des impôts, c'est vrai pour tout ce bras qui protège l'usager, le consommateur, le salarié, le contribuable, eh ben, il a été largement attaqué et abîmé, et ça, c'est en France en 2023. Et à côté, on voit le nombre d'accidents du travail qui augmente, on voit la délinquance patronale qui explose, on voit une situation, oui, qui ne serait pas tolérée dans d'autres secteurs de l'activité, mais qui l'est du point de vue du travail. Ça, ce n'est pas normal. L'ordre public social, c'est essentiel. Respecter les salariés au travail, préserver leurs droits. Moi, j'ai signé très récemment une tribune dans Le Monde avec différentes personnalités pour exiger un plan zéro mort au travail. Personne ne devrait partir le matin au travail pour ne pas en revenir. Bon, ben ça, ce serait des volontés qui seraient exprimées de façon extrêmement forte. Mais non, la réalité est malheureusement pas celle-là aujourd'hui. Et moi, j'essaye avec ma petite voix, à côté de tous ceux qui aussi agissent le plus possible, de parler du travail, de parler de cette réalité du travail. Parce que vous savez, quand le travail, ça se passe bien avec un employeur, ben, tout est parfait. Mais à partir du moment où ça déraille, où les choses ne vont plus, alors très vite, la situation pour les salariés dans les entreprises peuvent devenir dramatiques, réellement dramatique, et c'est ce qui fait qu'on a vu au cours des 2 dernières décennies exploser ce qu'on appelle maintenant les risques psychosociaux au travail et qui à eux tout seuls supposeraient d'avoir des centaines d'inspecteurs qui pourraient intervenir sur ces sujets-là, ce qui est encore une fois malheureux.
Alors, une petite voix, mais d'une grande portée, notamment donc le 5 décembre à Malzéville, vous pouvez nous rappeler ce qui va se passer pour nos auditeurs qui prendraient en cours cette émission.
Oui, bien sûr, je serai à Malzéville le 5 à partir de 18h pour un apéro, débat, échange, dédicace autour du livre à l'initiative de l'Union locale CGT de Nancy qui m'a invité bien aimablement à venir. On pourra y parler, on pourra y débattre du livre, on pourra poursuivre également sur les propositions et sur comment reconstruire un code du travail du 21e siècle, qu'il soit effectivement plus protecteur que ce qu'il n'est devenu aujourd'hui. Et échanger aussi sur comment dans l'entreprise créer des espaces de démocratie, retrouver et créer des espaces de démocratie, parce que l'entreprise, ça reste quand même un des derniers lieux de l'absolutisme patronal, et ça, c'est pas non plus complètement conforme à ce qu'on pourrait attendre d'une entreprise en 2023 en France. Donc c'est débattre de toutes ces questions-là avec des syndicalistes, des citoyens engagés ou pas, qui veulent découvrir ces sujets et parler droit du travail de la façon la plus libre et la plus ouverte possible.
Alors, merci à vous Anthony Smith, inspecteur du travail et à présent écrivain, mais on va remercier aussi, donc vous avez aussi une confrère ou enfin une personne qui a contribué à la rédaction de ce livre.
Bien sûr, c'est Marie-Pierre Vieux qui est ma co-autrice et qui est aussi mon éditrice d'une maison d'édition militante qui s'appelle Arcane 17 et ils ont un site internet évidemment et c'est une aventure formidable. C'est Marie-Pierre que je connais depuis longtemps qui m'a proposé de la raconter. Je ne savais pas au début si c'était pertinent, puis elle m'a convaincu, elle m'a dit écoute, c'est une histoire où tu gagnes, c'est une histoire qui dit énormément de choses, il faut la raconter, il faut en parler. Elle a eu raison parce que depuis je suis invité un peu partout pour en discuter, en échanger, en débattre, et moi c'est ça qui me porte aussi, c'est de dépasser cette histoire pour porter des propositions, porter des idées dans le débat public, le faire avec les citoyennes et les citoyens, et voilà, c'est mon moteur.
Eh bien, merci à vous deux, déjà, et puis à tous ceux qui ont permis que cette affaire, vraiment, on ne peut pas la qualifier, puisse être médiatisée, et surtout avec cette fin heureuse concernant déjà cette sanction. Merci encore à vous, Monsieur Smith.
Un grand merci à vous. Un grand merci. Au revoir.
Au revoir.
Saint-Nicolas, mon bon patron, apportez-moi des petits bonbons. Pour les petites filles, des marrons pour les garçons. Saint-Nicolas, mon bon patron, apportez-moi des petits bonbons, des beaux jouets pour mes copains, des belles fleurs pour la maîtresse. Saint-Nicolas, mon bon patron, apportez-moi des macarons. Apportez-moi des macarons, des mirabelles pour les demoiselles, des coups de bâton pour les garçons. Saint-Nicolas, mon bon patron, apportez-moi des macarons, des galettes pour les grands-mères, des lunettes pour les grands-pères. Saint-Nicolas, mon bon patron, apportez-moi quelque chose de mon panier rempli de foin pour la bourrique de Saint-Nicolas.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Et oui, vous avez donc entendu, ce sont des enfants, des Kinder, ils sont pas chocolatés, ils sont chantants, Kindercore, qui nous interprétait Saint-Nicolas, mon beau patron, puisque la veille, donc toujours le 5 décembre, à partir de 18h à Malzéville, nous avons la présentation de ce livre, donc notamment écrit par Anthony Smith, comme nous venons de l'entendre. Et le comité de soutien était essentiel. Et à présent, ce sera Jean-Marie Hirtz qui va pouvoir nous en parler davantage. Bonjour, monsieur Jean-Marie Hirtz.
Bonjour.
Alors, nous venons d'entendre justement L'inspecteur du travail, Anthony Smith, qui a parlé de vous. Alors, d'une part, pouvez-vous vous présenter et d'autre part, parler justement de ce comité de soutien qui a été essentiel dans cette, entre guillemets, affaire.
Je m'appelle Jean-Marie Hirtz. Je suis inspecteur du travail, donc à la tête aujourd'hui 54, donc de Meurthe-et-Moselle. Et je suis également militant et représentant CGT au niveau de la DEPS.
Alors, déclinez le sigle.
La Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités.
Voilà, parce que c'est... Oui, c'est ça. Il y a eu une modification d'appellation dans les dernières décennies, c'est pour ça.
C'était l'ancienne DIRECT. Hein.
Voilà. Allez, on décline le cycle DIRECT, pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Alors, qu'est-ce que c'était déjà? La Direction de l'Emploi, la Direction Régionale de l'Emploi, des Entreprises, du Travail...
Et du travail.
Et avant de la consommation, et on va pas décliner direct,
voilà.
On va l'oublier.
Voilà, hein, tout à fait. Donc, voilà, maintenant, on redit quand même le dernier sigle actuel, parce qu'il y a ce terme de solidarité qui s'est greffé en quelque sorte.
Oui, en fait, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a été dans le cadre de la réforme de l'OTE, la nouvelle organisation territoriale qui a été mise en place pour les administrations, a consisté en fait à fusionner les anciens services de la cohésion sociale et les services du travail et de l'emploi.
Eh bien, on arrêtera là pour la présentation du tissu, du tissu administratif, mais c'est important parce que c'est vrai que ça évolue pas mal dans ces dernières décennies. Alors, en revanche, ce comité de soutien.
Je crois que ce qui est déjà intéressant pour comprendre un petit peu comment les choses se sont construites, il faut se replacer dans le contexte dans lequel Anthony a été sanctionné. À l'époque, on est en plein Covid, on est en plein confinement. Et puis subitement, les book WhatsApp, les SMS s'activent et on apprend qu'Anthony est suspendu et puis qu'une action disciplinaire va être engagée à son encontre. Et là, je dois bien avouer, pour nous tous, parce qu'on a échangé entre les collègues, c'était la stupéfaction, quoi. Moi, à titre personnel, en plus, Anthony, je le connais depuis longtemps, avant même son intégration dans les services. Quand il a intégré les services, il a suivi sa formation initiale à Nancy. J'étais son responsable de formation pendant un an. Et donc, Anthony, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est un collègue, c'est un camarade, mais c'est aussi un copain, quoi. Et connaissant bien ce garçon, je sais qu'il est droit, je sais que c'est un inspecteur du travail impliqué, qui porte les valeurs de service public, et je n'arrive pas à imaginer un seul instant qu'il ait pu déconner de quelque sorte dans son activité professionnelle, quoi. Donc je l'appelle, j'essaye de comprendre, je n'arrive pas à l'avoir, et je m'inquiète pour lui, et il finit par me rappeler, et puis il me dit, il m'explique toute l'histoire. Et puis là, j'avoue que je suis atterré, c'est-à-dire que je n'aurais jamais imaginé que notre administration centrale en arrive à engager des poursuites à l'égard d'un collègue qui n'a fait ni plus ni moins que le travail pour lequel il est payé au quotidien. Donc je lui dis, il faut qu'on s'organise, faut organiser ton soutien, faut créer un site internet, faut monter un comité. Et il me dit, tiens, on court, je te donne les coordonnées de la copine à la CGT qui y travaille, et puis prends contact, et puis organisez-vous. Quoi. Et donc on commence à constituer ce comité de soutien. On se réunit un peu régulièrement en visio, surtout les samedis matins. On a notre boucle de messagerie. Je peux vous parler un petit peu de sa composition à l'époque, si vous voulez.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, dans ce comité de soutien, on a bien sûr quelques copains de la CGT, de l'inspection du travail. On a aussi notre copine de la Fédération des syndicats de l'État, de la CGT. Puis on a des représentants de la FSU. Y a Mathilde Panot qui est à l'époque présidente de ce comité de soutien, la sociologue Danielle Dinart également, Gérard Filoche et puis Thomas Porte qui était en fait à l'initiative d'une pétition en ligne qui commence à ce moment-là à avoir un véritable écho qui s'est terminée d'ailleurs par plus de 165 000 signataires, et c'est constitué du coup vraiment un bon point d'appui pour nous pour commencer la bagarre, quoi. Alors dans le cadre de ces réunions, on essaie de réfléchir ensemble, on essaie de voir comment on peut populariser le soutien à Anthony. Et puis là, en fait, s'organise un gros travail de petites mains. Hein. On multiplie les courriels, les sollicitations de soutien auprès des politiques, des élus, des universitaires, des artistes, des syndicalistes. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'essayer de populariser au maximum notre lutte et puis aussi faire écho à toutes les initiatives locales qui commencent à s'organiser un peu partout, des copains dans les services. Qui veulent chercher des moyens d'exprimer leur soutien, leur solidarité avec Anthony. Donc on crée une adresse courriel, bien entendu, dédiée. On se crée un espace partagé aussi entre nous. On va régulièrement suivre les retours des soutiens qui nous arrivent sur la boîte mail, avec parfois des très très bonnes surprises. Et puis c'est tout un petit travail vraiment laborieux, mais nécessaire, de préparation visuelle. Qui représente nos soutiens, un travail aussi qui consiste à leur soumettre ces visuels pour voir s'ils acceptent que leur image et leur soutien soient rendus publics. Et puis quand c'est approuvé, on diffuse et on feuilletonne un petit peu tous ces soutiens successifs de personnalités, de représentants syndicaux, de citoyens dans la lutte de soutien à Anthony.
Alors justement, ce point d'orgue de ce comité de soutien a eu lieu à Nancy, là où actuellement c'est la Saint-Nicolas. Et donc il y a cette grande roue, et juste à côté de la grande roue, il y a le siège d'une institution judiciaire.
Mais j'imagine qu'on fait référence là au tribunal administratif. Anthony a saisi pour obtenir gain de cause et faire annuler sa sanction.
Voilà.
Et effectivement, ce moment, c'est un temps fort de la mobilisation, parce que déjà, c'est là où beaucoup de choses se jouent pour Anthony. Alors, il y a eu un grand rassemblement parisien aussi au moment de la CAP, et disciplinaire à laquelle Anthony a été convoqué. Et il y a ce moment, effectivement, à Nancy, de rassemblement de soutien à Anthony.
Oui,
et
là, CAP, Commission Administrative Paritaire.
Voilà, pardon. Et en fait, on s'appuyait déjà sur tout le travail du comité de soutien qui a été vraiment d'élargir le champ de la lutte. Hein. On a bien sûr mené la bataille en interne. Les collègues dans les services se sont mobilisés. On a créé une intersyndicale très large pour soutenir Anthony. Au-delà de ça, on a aussi constitué un rapport de force et obtenu le soutien important au niveau interprofessionnel et toujours en intersyndicale. Et on a aussi élargi au champ politique, puisqu'on a eu beaucoup d'élus. On a eu quand même 9 responsables politiques qui ont écrit à Édouard Philippe un courrier commun. Hein, pour demander, après les 40 jours de sanctions d'Anthony, de suspension d'Anthony, ils ont écrit quand même à Édouard Philippe pour lui dire que cette sanction était incompréhensible et qu'il fallait que ça cesse. Donc on a petit à petit vraiment élargi le spectre de la lutte avec des soutiens de plus en plus variés, de plus en plus importants, de beaucoup d'artistes également. Et on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait complètement quitté le champ quelque part du travail, de l'inspection du travail, et que c'était devenu un débat citoyen. Et de nombreux citoyens s'étaient saisis de cette question-là en intégrant le comité de soutien, en nous écrivant pour soutenir la lutte d'Anthony et en signant la pétition. Et donc on en arrive à la situation de Nancy, où fort finalement de cette mobilisation importante et qui est sortie des murs, on se retrouve effectivement avec un appel intersyndical et politique très très large à Nancy, puisqu'on a 8 organisations syndicales dans le Grand Est qui le soutiennent, un appel de soutien politique de très nombreuses organisations politiques qui vont de lutte ouvrière, gauche révolutionnaire, jusqu'au mouvement des radicaux, jusqu'aux radicaux de gauche, l'EPS, l'EPC, etc. donc Europe Écologie Les Verts. Et donc, on se retrouve avec un front de lutte exemplaire, je dirais, pour soutenir Anthony. Et donc, du coup, effectivement, un rassemblement qui avait quand même de très belles couleurs.
Et puis, surtout, également, ben, ça a un peu dépassé quand même les frontières françaises, cette affaire.
Ah, on a eu aussi la visite de nos camarades belges, notamment. Oui. C'est à ça que vous pensez ?
Bah, d'une part, et puis je pense à d'autres choses que je ne connais pas, mais dont vous pourriez nous parler, parce qu'effectivement, enfin, avant de nous quitter, parce qu'effectivement, cette affaire a été emblématique, non seulement en France, mais au niveau international, en fait, parce que c'était tellement, tellement gros, pour aller vite.
Oui, alors, sur l'international, je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus, j'avoue. Sinon qu'on ait des soutiens d'un certain nombre de syndicats européens.
Voilà, voilà, c'était ce que je pensais, qu'effectivement, d'autres instances européennes, entre autres, se sont emparées aussi de cette question. C'est pas uniquement resté confiné, entre guillemets, non seulement dans le Grand Est, mais au niveau national. Ça a largement dépassé ce secteur local et régional.
Tout à fait. Ah oui, oui, très largement au niveau national. Avec aussi des prises de position et des messages très sympathiques qu'on a pu avoir. Hein. On a l'ancien ministre Roux qui a soutenu Anthony. C'était quand même, pour nous, c'est quand même pas quelque chose d'indodin. Hein. On a eu aussi des hauts fonctionnaires qui sont plutôt d'habitude des gens un petit peu taiseux, qui ont eu des messages, qui nous ont envoyé des messages de soutien pour Anthony, qui étaient tout à fait sympathiques. Je pense notamment à Thierry Cuisnet, qui est un directeur honoraire du travail, ou à Daniel Lejeune, qui est un inspecteur général des affaires sociales honoraires. Donc, deux retraités hauts fonctionnaires qui ont écrit des messages qui étaient tout à fait, y compris surprenants dans leur clarté et dans leurs exigences. Et puis, on a aussi des messages engagés, je pense à la longue lettre que Nicolas Mathieu a fait, le grand texte que Nicolas Mathieu a fait, qui était assez remarquable. Le petit message aussi très sympathique d'Alice Zeniter. Enfin, on voit que vraiment, on a touché largement les gens, parce que bien au-delà de notre sphère habituelle militante, beaucoup, beaucoup de gens ont été heurtés par cette situation qui est venue... frapper Anthony, quoi.
Voilà, donc, avec cet impact citoyen dont vous nous avez parlé, et qui va être un peu, justement, l'aspect essentiel qui va se présenter, donc, le 5 décembre, à Malzéville, et je pense où vous serez également.
Ah ben, je serai là, parce qu'en plus, Malzéville a été assez exemplaire en matière de soutien des élus locaux à la cause d'Anthony. Est-ce qu'on peut dire que je pense que à peu près toute l'équipe municipale de la majorité a apporté son soutien à Anthony et à son comité de soutien.
Eh bien,
donc, c'est quand même une belle histoire qu'ils reviennent nous rendre visite à Malzéville.
Eh bien, merci à cette collectivité territoriale et surtout merci à vous et à vous tous qui ont permis cette médiatisation essentielle et qui permet de faire des petits sur d'autres actions, puisque ce qu'il faut, c'est rendre visible et audible ce que modestement à RCN on essaye de faire, ce type de situation.
Et puis je tiens à dire en plus qu'au-delà, on a parlé de Malzéville, mais effectivement, en proximité, en Lorraine, parmi les premiers députés aussi à avoir soutenu Anthony, y a Caroline Fiat et il y a Dominique Potier, tous les deux, avec des parcours politiques qui sont très différents, mais une sincérité et un investissement équivalent à soutenir Anthony. Et puis on a eu aussi, effectivement, et je l'ai cité, Nicolas Mathieu, qui a été assez formidable dans cette affaire-là, et Aurélie Filippetti, qui également tout de suite nous a apporté son soutien.
Alors pour
donc une région qui a bien bougé et qui s'est montrée solidaire, et c'est beau de se rappeler que la Lorraine est solidaire.
Voilà, et avant de nous quitter, pour nos auditeurs qui seraient très jeunes, qui ne connaîtraient pas, alors Nicolas Mathieu, c'est un écrivain, mais qui a notamment eu ce prix, alors vous allez le préciser.
Le prix Goncourt.
Voilà, hein, Nicolas Mathieu.
Le prix Goncourt. On en avait un autre de prix Goncourt. Hein. et on avait aussi un prix Goncourt des lycéens.
Oui. Ah,
avec Alice Zeniter, si je ne dis pas de sottises.
Et puis,
Caroline... On avait aussi Éric Billard qui a soutenu le comité de soutien.
Alors Dominique Potier, donc député PS, et Caroline Fiat, députée La France Insoumise, qui savait très bien de quoi il s'agissait, puisqu'elle elle-même était dans les professions médicales d'aide-soignante, et elle savait que les masques, c'était essentiel dans cette période-là. Merci encore à vous, et puis donc rendez-vous le 5 décembre à partir de 18h, de 18 à 20h, à 21h à Malzéville, à la salle Michel Dinet, ex-salle des fêtes. Merci encore à vous.
Merci beaucoup, au plaisir de vous y trouver.
Merci.
Saint-Nicolas, nous savons que vous êtes des écoliers, le grand et saint patron. Quand votre honneur, ils font de belles fêtes et sont heureux de chanter votre nom. Peignez aussi sur nos petites têtes et tendre un peu votre protection. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. Vivant sur cette terre, on vous voyait entouré de garçons qui se pressaient comme autour d'un bon père pour écouter vos touchantes leçons. Aux tout petits qui ne comprennent guère, en attendant, vous donniez des bonbons. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. On instruit notre enfance, on nous apprend à prier le Seigneur. Nous comprenons combien votre assistance peut dans le ciel obtenir de faveur. Et nous chantons avec reconnaissance Saint-Nicolas, notre grand protecteur. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, Saint-Nicolas.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Et Brassage que vous pouvez retrouver en podcast sur le www.rcn-radio.org. D'une part, cette émission par rapport à ce rendez-vous le 5 décembre à Malzéville à partir de 18h à la salle Michel Dinet. Également, donc, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions. Eh ben, le futur brassage du 7 décembre sera consacré justement à la Saint-Nicolas avec des tas de pépites. Et puis, entre-temps, eh bien, le samedi, vous avez les Vosges samedi à partir de 9h avec les bons plans Vosgiens, entre autres. Un grand merci à Pierre Baudot pour cette mise en onde, ainsi qu'à notre générique illustré musicalement par Tsiganissi. Bonne semaine à vous, à bientôt et restez fidèles à RCN 90.7.